Par une de ces ironies dont l'histoire semble raffolée, le jour où François voulut se présenter à lui, on ne pouvait trouver du fond de la Sicile jusqu'aux confins de l'Italie du Nord un homme plus occupé et plus préoccupé que ce personnage qui se disait prince de toute la terre. Or, une des idées qui s'agitait le plus constamment sous cette tiare pointue et dorée était d'en finir avec les désordres de l'Église en lançant à travers l'Europe une croisade de renoncement et de pauvreté. De plus, il venait de jeter l'anathème sur les Cathares et la guerre contre les Albigeois s'organisait. Par cette journée de printemps de 1209, il se promenait de long en large au Latran, dans la galerie dite du Miroir, et du plus loin qu'il vit François et ses 11 compagnons, il les fit éconduire. Chassant de sa présence l'homme entre tous providentiel qui pouvait le mieux faire triompher son idéal. Mais tout monarque a ses phobies, et l'une des phobies d'Innocent III était l'hérésie, parce que l'hérésie, c'est la révolution. Il se méfiait de ces bonhommes de Lyon, de ces chiffonniers de Milan qu'on appelait patarins, et 2 ans plus tôt, il avait fait brûler les maisons de ceux de Viterbe, comme de tous ces exaltés qui agitaient l'Évangile et attaquaient le clergé dans ses mœurs. À quoi servait l'Église, disait-il, si elle ne se conformait pas littéralement à l'Évangile? La réforme, donc. La réforme à tout prix. Principe inattaquable en apparence, mais dangereux. À quoi servaient les Églises si l'Évangile suffisait? Et qui eût osé dire qu'il ne suffisait pas? L'argument était spécieux mais fort. Il contenait en germe tous les protestantismes en marche vers l'avenir. Alors, cette petite troupe de va-nu-pieds qui sollicitait une audience, c'était encore de ces hurluberlus illuminés qui voulaient sûrement en remontrer au chef de la chrétienté. Dehors! On voudrait savoir comment les choses se passèrent ensuite. Mais les récits qu'on nous fait ont quelque chose d'officiel et de convenu, sauf un qui nous vient d'Angleterre en 1236 et qui a été jugé absurde. Nous verrons. Voici donc François et sa petite troupe de pauvres qui demandent audience au plus politique des successeurs de Pierre. Mais on n'accède pas si aisément au pied du trône du serviteur des serviteurs de Dieu. Par bonheur, Guido, l'évêque d'Assise, est à Rome, qui, bien étonné de le voir là, et encore plus étonné de la requête de celui qui l'enveloppa naguère de sa chape, consent à lui venir en aide. Il va trouver un saint personnage de ses amis, le cardinal Jean de Saint-Paul, de la famille des Colonna, chargé naguère d'instruire les procès des Vaudois et au courant de tous les problèmes de l'hérésie. Maître Guido lui explique le programme de François. « Encore l'Évangile ?» Mais l'évêque rassure le cardinal. François est un catholique, on ne peut plus obéissant. Fin diplomate, le prélat eut l'inspiration de loger quelques jours tout ce petit monde évangéliste dans son palais. Un supplément d'information ne sera pas inutile. François va pouvoir parler tant qu'il voudra et découvrir ainsi le fond de sa pensée. Le cardinal de Saint-Paul, c'était la curie. Il s'efforça de montrer à François que sa règle, bien que fort belle, ne s'adaptait pas au monde présent. Pourquoi ne choisissait-il pas de suivre la loi du Christ dans un ordre religieux comme il y en avait déjà tant? Mais François n'avait aucune vocation de ce genre. Le Christ lui avait dit sa volonté, cela suffisait. Et il comprit qu'il était là pour se battre, et se battre pour le Christ. Le cardinal s'obstinait en vain. On ne peut qu'être touché de voir alors ce même juge qualifié des hérésies, convaincu par le discours passionné de François. Une audience du pape fut obtenue. Ici, les témoignages diffèrent. François ne devait pas payer de mine dans ses vêtements de misère. L'entourage de ses compagnons n'arrangeait rien. Si l'on en croit Roger de Vendover, moine de l'abbaye de Saint-Alban en Angleterre, le pape le considéra avec dégoût, mais écouta cependant la lecture de cette règle nouvelle. Son commentaire fut simple et brutal. « Frère, va garder les cochons. C'est à eux qu'on devrait te comparer plutôt qu'aux hommes. Roule-toi dans le fumier avec eux, offre-leur ta règle et sois leur prédicateur. »